Vous écoutez Radio FMR, nous sommes le samedi 6 décembre 2008. Nos programmes pour cet après-midi, à 13h, du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie. À 15h, du reggae avec Zarma Farai. Et à 17h, FMR cède l'antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz. Mais dans l'immédiat, voici le show humoristique que vous attendez tous.
Précédemment, dans le supplément week-end.
C'est-à-dire qu'en fait, on transpire tellement à l'intérieur qu'on n'a pas le temps, on n'a pas le temps d'y aller, en fait. C'est-à-dire ce qu'on boit, c'est tout de suite éliminé. Après, il y a un système. Donc, ce qu'on a au niveau du midsection, donc ce qu'on appelle le midsection, c'est la partie abdominale de RoboCop. Mm. On a un système qui permet, si vous voulez, d'y aller, pas très commode, mais un.
Radio FMR présente. Le supplément week-end. Le magazine des cultures geeks. Avec du sport. Ultimatum. Das Creek. Et la participation exceptionnelle de JB.
Nous revoici en direct des studios de Radio FMR la semaine dernière, donc on était en direct à la Bêche pour le Toulouse Game Show, deuxième édition. C'est une émission, c'était la première fois qu'on la faisait en direct intégral en externe et on aurait beaucoup pu se planter beaucoup plus que ça et finalement.
Mais non.
Oui, ça a été un peu moins catastrophique que prévu, enfin, ceci dit. Merci du sport pas trop bus. Wouhou. Du sport, viens ici mon Dus. Non, pas ce micro, l'autre. Voilà. Et oui, parce que maintenant il y a une émission avant nous, donc c'est un petit peu le bazar, il faut ranger.
Non, c'est pas vrai, il raconte des conneries.
C'est vrai que d'habitude, on prend une demi-heure pour se mettre en place. Ça va, t'as pas été trop frustré?
Ouais, c'est ça, hein, dans ton petit confort et tout, dès qu'on le dérange, ton petit confort, ça y est, fini, y a plus personne.
C'est
t'as
ça.
Remarqué?
Ouais, mais. Ce petit pépère là, il parle de plus en plus de faire l'émission chez lui en plus. Alors,
ouais,
en chaussant là.
T'imagines?
On la fera, mais c'est à partir de l'été prochain parce que là on se gaille, on va pas la faire sous la flotte dans le froid.
Oui, pardon. Encore aujourd'hui, ceux qui ne sont pas à Toulouse, on vous assure, il fait beau.
Oui, voilà, à peu près. Bon, je vais finir par arriver à me mettre en place proprement. Bref.
Bon, le programme.
Alors, le programme aujourd'hui, eh ben, on a du L'Enfance de Troyes, on a de la mangas, on a de la manière de dessiner, on a le prix de la critique, on a les films les plus attendus, et on a les moustaches,
Par les moustaches de McGregor.
Non, c'est une moustache qui conduisent des Ferrari, qui sont très attendus aussi tout à l'heure à l'entrée. Ceci dit, donc, eh ben, au Toulouse Game Show, j'ai eu les organisateurs hier au téléphone. Ils sont super heureux. Ils nous avaient dit qu'ils avaient un objectif. Ils aimeraient faire 15 000 entrées. Ce qu'ils ont déclaré il y a 15 jours sur cette antenne en direct. Ils ont atteint 15 600 entrées. Objectif rempli. Le terme est faible de le dire. Hein. C'est vrai que c'était plein. Qu'on s'est tous bien éclatés. Que ça a été, de ce côté-là, vraiment du bonheur. Avec beaucoup de choses à voir. D'autres interviews qui ont été faites sur place et qui ont été préenregistrées, ouais. Voilà, avec donc un spécialiste de figurines déshabillées avec petite culotte apparente et un spécialiste de la chanson hurleuse des années 80. Ah oui, pour cause.
La chanson costumée aussi.
Voilà, exactement. Bref. Tout cela, eh ben, c'est pour vous dire qu'il y aura une spéciale Q qui est en préparation prochainement. Ce sera pour se défouler, on verra la date, peut-être le 14 février, histoire de déconner. Et pour Noël, entre Noël et le Nouvel An, eh ben, vous aurez l'interview de Bernard Minet.
Voilà. Ouais.
C'est le petit cadeau pour le petit Thomas. Voilà. Non, on va pas la ressortir la blague sur les myopathes, c'est le Téléthon en ce moment. Ceci dit, donc, nous voici de retour. Et qu'est-ce qui est tombé sur mon téléscripteur? Enfin, plus exactement, j'étais censé faire partie du
breaking
vote
news.
Et j'ai pas eu le temps. Non, si on dit breaking news, c'est une vitre qui va se péter. Je connais la... je sais ce qui se passe, donc stop. On ne dit pas ça, on dit nouvelle fracassante avec le prix, le grand prix de la critique 2009 qui est donc tombé. C'est le cas de le dire. Après donc un vote qui a fait un taux de participation de 80% hein, sur les 80 journalistes qui sont membres de la CBD. Puisque cette année, ben donc c'est une dessinatrice anglaise, Posy Simmons, qui donc a eu le prix en question pour Tamara Drew, qui est donc un roman graphique qui est une espèce qui est une suite après Emma Bovary, qui était une relecture de Madame Bovary de Gustave Flaubert. Et ben cette fois-ci donc c'est une adaptation très libre du roman de Thomas Hardy Loin de la foule déchaînée, qui donc est paru dans The Guardian. The Guardian, c'est un quotidien anglais à la fois avec de grandes plumes artistiques et politiques, je vais dire plutôt gauche libérale. Hein. Libération a pendant des années essayé de suivre le Guardian, ils y sont jamais arrivés. Et le Guardian a toujours eu une réputation de qualité et d'excellence qu'ils ont très facilement, je dirais, usurpé au Times, qui a beaucoup chuté depuis leur achat. Bref. Tamara Drew de Posy Simmons, j'en parlerai la prochaine fois, j'en parlerai bientôt, puisque j'ai obligation, de par mes pairs, puisque j'ai voté avec eux, de parler du bouquin et d'en faire la promotion. Je n'ai pas eu l'occasion de le dire jusque-là, simplement parce que, je rappelle, il y a eu 4000 sorties cette semaine. C'est monstre, 4000 sorties, excusez-moi, 4000 nouveautés en bande dessinée cette année. C'est absolument monstrueux, on n'arrive pas à tout suivre. Oui, cette semaine, non, ça, là, ce serait
bientôt.
Carrément la révolte des libraires.
Bientôt,
et on
bientôt.
Verra ce que donnera, ben, justement, la, de ce côté, s'il y aura, si la crise économique aura raison de cette surinflation éditoriale. On verra. À mon avis, ça risque de laisser pas mal d'éditeurs un peu de côté. Ça, la concentration a déjà commencé. On en reparlera, de toute façon, à mon avis, fin janvier. Il y aura un supplément week-end qui va être un peu lourd techniquement, puisque ça va être notre prochain direct en extérieur. Oui, j'essaie de resserrer ce petit micro de bordel de... Voilà, en même temps, puisqu'on sera au Festival d'Angoulême avec donc nos amis et partenaires d'Actua BD, normalement, c'est ce qu'on espère faire, donc on fera un panorama du milieu éditorial, à la fois sur le plan artistique, qualitatif, mais aussi sur le plan économique et d'autres choses, puisqu'il y aura l'oncle Couillon Tungsten, alias Didier Passamonique, qui sera là pour en parler. Oui, oncle Couille en tungstène, c'était avec ça qu'il faisait ses articles économiques sur la BD. Une signature. En place avec les chroniques de bande dessinée, mais cette fois-ci c'est Thomas qui arrive avec un artbook Voilà, qui fait peur.
Avant d'entamer les sorties BD, c'est un bouquin qui est à mi-chemin entre le l'artbook et le livre de tuto, de tutoriaux, puisque ce sont une vingtaine d'artistes de l'éditeur Ankama qui livrent leurs recettes pour des illustrations. Alors ça peut être soit fabrication de décors pour un dessin animé, soit création de pictos pour le jeu en ligne Wakfu, soit une planche de BD.
Il faut rappeler un peu que Ankama au départ est éditeur de jeux vidéo.
Voilà, Ankama est, de toute façon on a déjà parlé, il est éditeur de jeux vidéo, du jeu vidéo en ligne Dofus ainsi que Wakfu. Ils ont lancé le dessin animé Wakfu, ils sont éditeurs de bande dessinée, et c'est vraiment que c'est vrai que c'est intéressant de voir un peu toutes les disciplines qu'il y a dans chez cet éditeur à travers les recettes des graphistes qui sont dans ce bouquin qui s'appelle How to Art. Alors ça peut aller de soit de la BD vraiment dans un style manga noir et blanc, notamment par exemple avec la BD de Gilles Harris, Le Dragon Cochon d'Ofus Monster 2.
Coucou Gilles.
On peut avoir aussi les recettes de Maliki qu'on ne présente plus pour créer une illustration, un personnage en pose figée. On peut avoir aussi la création de décors. On peut avoir les recettes de la Dofus Manga Team avec Ancestral Z et ses acolytes, avec notamment tout le processus du scénario qui va vers le découpage, ensuite vers la planche finalisée. On a aussi les recettes de Xa, qui est le character designer en chef de Wakfu. Donc c'est assez varié, c'est ça qui fait plaisir. Et le caractère des infos qui sont données varie aussi d'un artiste à l'autre. Il y a certains qui vont s'adresser plus à des débutants, donc en indiquant le chemin pour aller trouver
vers l'illumination.
Le chemin vers l'illumination à travers chemin très précis des outils, vous allez dans un fichier édité machin. Ou alors l'autre, il va plutôt donner des recettes au niveau graphique, c'est-à-dire que lui il va plutôt placer d'abord les teintes chaudes et froides, ensuite il va commencer à placer le dégradé, et ensuite il va faire soit le dessin montrer d'abord, soit placer les masses de couleurs. Donc c'est vrai qu'on peut voir les différentes façons d'aborder une illustration, un dessin ou une planche de BD à travers les profils. Ça c'est important aussi, puisque les profils sont détaillés, il a étudié à l'école des gobelins, l'autre il vient plutôt du web, un autre qui vient plutôt de l'illustration pure. Et c'est vrai que ce qui frappe aussi dans ce bouquin, ce sont pas uniquement des illustrations, on va dire, à but commercial, avec des esthétiques vachement léchées, du dégradé, du truc vachement clean fait sous Flash ou Illustrator. Il y a aussi pas mal d'illustrations qui sont soit on aime soit on déteste, qui sont assez caractérisées, qui sont assez vraiment qui vont dans l'arty aussi. Là je montre quelques pages à mes acolytes, vraiment ça va vraiment plus vers de l'art à un moment donné, de l'abstrait. Et c'est ça qui est vachement intéressant, puisque quand tu passes d'un artiste à un autre, les profils sont différents, les recettes sont différentes, la manière d'aborder les recettes et de s'adresser à un public avant tout qui connaît les outils, ça ne s'adresse pas aux néophytes. Les professionnels aussi pourront trouver leur compte, puisque c'est aussi un artbook avec qualité de repro assez pas mal, avec avec une majorité de pages qui sont allouées aux illustrations finies. Donc c'est vraiment un truc à conseiller autant aux professionnels qu'aux débutants dans le graphisme qui ont déjà commencé à tâter un peu d'Illustrator, du Flash, du Photoshop. C'est un bouquin en plus que pour un artbook qui est pas très cher, qui est à 30€, donc on ne saurait trop.
C'est même moins cher que la plupart des artbooks importés.
Ah oui, tout à fait. Ouais. Et en plus, vu le nombre de pages.
C'est impressionnant. C'est vraiment un bouquin qui est impressionnant par le volume, l'expertise qu'il y a dedans, parce que tous les auteurs dont on a parlé, Harris est un dessinateur qui a aussi officié chez Delcourt après avoir quitté Caramel Mou, les copains de campus. Maliki on ne présente plus,
il y a vraiment
de ce côté là il y a tout un panel de signes graphiques qui est impressionnant. Et c'est un investissement que tu estimes plus que valable en tant que bouquin how to ou comme artbook tout court?
Les deux. Ça vaut le coup en bouquin how to, et ça vaut aussi le coup en artbook, puisqu'il y a pas mal, beaucoup d'images finalisées qui il y a aussi pas mal de travaux personnels que tu ne pourras pas trouver ailleurs. Par exemple le character designer de Wafu, tu pourras trouver ses illustrations dans les soit dans le Dofus Mag édité par Ankama, soit dans le jeu, alors qu'il y a d'autres illustrations de travaux personnels que tu ne pourras pas retrouver ailleurs. Ça c'est sympa. Et aussi ce qui ressort un peu de cette expérience et de témoignages de tous ces artistes artistes, c'est que ils sont toujours à la recherche d'expérimentation. Ils disent oui, alors il faut jouer avec les masques de fusion sur les logiciels, n'hésitez pas, trompez-vous. Donc ça s'adresse vraiment aux graphistes purs et durs. Et puis comme je disais, quelqu'un qui ne maîtrise pas ses logiciels et qui ne veut pas faire carrière dans l'illustration pourra toujours se rincer l'œil avec les qualités des images.
Te rincer l'œil, mais t'as le nez pris, toi.
Je traîne, je pense que je vais en faire ma signature à l'antenne. Alors ça s'appelle How to Art par 20 artistes d'Ankama et c'est édité chez Ankama Édition.
Dans les sorties bande dessinée, donc c'est une BD, j'en avais parlé, c'est Poèmes de la planète Eureka 7, c'était un objet bizarroïde, même dans le monde des mangas shonen, c'est-à-dire les mangas pour adolescents, garçons, on a vu des trucs, par exemple Yu-Gi-Oh, encore les Pokémon et tout ça.
Rappelez-les tous.
Mais ça, en fait, c'était des concepts qui étaient assez stupéfiants, même si Pokémon, ça venait d'un jeu vidéo. Une rébellion contre une dictature qui fait du surf dans des robots géants et se finance en vendant des magazines de glisse. J'ai rarement vu une idée, honnêtement, aussi étrange, aussi bizarre. Et à vrai dire, le crossover entre Macross Robotech et Point Break, c'était plutôt sympathique, mais je me posais la question sur la viabilité de la série. Alors je l'ai reprise au vol, et c'est là que je me suis pris une grosse claque. J'ai même dû revenir au tome 4, pour dire. Eureka 7, donc le tome 5 vient d'arriver chez Kana, sur une histoire des studios Bones, dessinée par Jinsei Kataoka et Kazuma Kondo. Rayton, le jeune garçon qui est rentré comme ça dans la résistance par hasard, découvre qu'en fait, le trafar, la fameuse substance qui permet de surfer, est en fait un résidu de la vie alien. Plus exactement d'aliens, qui sont arrivés sur cette planète avant les humains et qu'on appelle les coralliens. Ceux-ci peuvent avoir différentes formes, comme des yeux gigantesques voraces qui dévorent les hommes en une seule bouchée, des rhizomes souterrains qui ont colonisé la planète, voire même, ils peuvent prendre forme humaine. Rayton, le jeune ado qui a découvert la vie en rejoignant la résistance, apprend avec effarement que la belle Eureka n'est absolument pas humaine, c'est une corallienne. Et à tout moment, celle qu'il a aimée peut la tuer, purement par instinct. Quant à l'existence des coralliens sur la planète, celle-ci était sue depuis le début par les trois sages, garants du gouvernement. Mais dans la confusion d'une attaque des yeux géants, le colonel Novak vient de prendre le pouvoir en les assassinant et promet la loi du Talion. Sauf que tuer tous les coralliens entraînera la destruction de la planète et du genre humain par la même occasion. Humains clonés, aliens génétiquement modifiés, virus tueurs, complots politiques et soif d'apocalypse, on est à 100 milieux de la bluette romantique originelle. Pourtant, l'histoire d'amour est toujours présente car c'est peut-être elle finalement qui va sauver les humains. Moi ça m'a étonné finalement, ça a été vraiment une bonne surprise par rapport au premier tome qui m'inquiétait énormément. Eureka 7, donc le cinquième tome est sorti chez Kana. Si vous l'avez manqué, si vous avez zappé, à la limite reprendre au tome 4, c'est un peu le reprendre au vol. Au tome 5, on sera largué. Studio Bones pour l'histoire originale, Jinsei Kataoka et Kazuma Kondo pour le dessin. Donc c'est traduit en France chez Kana. Détective Conan, le 58e tome est arrivé, donc de Gosho Aoyama. Moi, je suis absolument fan de cette série depuis qu'elle a commencé à être traduite en France en 2000. C'est pour ça que j'en ai très, très, très régulièrement parlé à l'antenne jusqu'à en saouler pas mal. Et pourtant, c'est une série qui reprend la recette du whodunit. Le whodunit, en anglais, particulièrement écorché, c'est qui c'est qui a fait le coup. C'est un genre littéraire qui a été popularisé par Agatha Christie. Un mort, des suspects, un lieu clos, et un lecteur qui a tous les éléments visibles comme un nez au milieu de la figure. À lui de découvrir le coupable par son raisonnement, avant que le détective ne s'exclame « Bon sang, mais c'est bien sûr !» Ajouter l'humour de la situation où un lycéen se retrouve dans le corps d'un enfant de 6 ans, et c'était parti pour être la série la plus populaire au Japon. Oui, mais 10 années éditoriales se sont passées et la série s'est un peu essoufflée. Dans ce tome, toujours à courir après gin et vodka de l'organisation des hommes en noir, ceux qui avaient empoisonné Conan, ils ont réussi à capturer un des sbires en la personne de Rena. Celle-ci est hospitalisée dans un coma simulé et elle va sûrement être évadée par l'organisation. Une organisation tellement criminelle que le FBI est là pour la surveiller et que la CIA... Stop. Minute. C'est trop. C'est tout simplement trop. Cet intermède d'espionnage est capillotracté. Pour ceux qui ne comprennent pas le latin, ça veut dire tiré par les cheveux. Cela ne donne aucune cohérence à la série, même si les personnages qui sont présents depuis les tout débuts et d'autres... qui sont savamment entreaperçus depuis une dizaine de tomes, eh ben, on sent bien que l'auteur, Gosho Aoyama, veut encore faire continuer le succès et qu'il a dévalué et qu'il a dévoilé une carte maîtresse en s'axant sur l'intrigue principale. Mais cela en fait vraiment trop. Où sont passés l'inspecteur Mori l'endormi, le commissaire Maigret, où est passé l'humour et l'esprit d'enquête à résoudre? Quant à la débauche de moyens de l'organisation des hommes en noir, elle n'est décidément plus du tout crédible. Car ils auraient très bien pu, très facilement retrouver Conan depuis les tout débuts en faisant 400 fois moins. Conan est une série qui se meurt car elle ne sait pas s'arrêter. Même sans faire une pause pour mieux revenir, comme par exemple l'a fait City Hunter alias Nicky Larson, qui est revenu quand même 10 ans après et qui est re-revenu encore là tout récemment. Eh ben, ça ne semble pas envisageable pour l'auteur. Et cette machinerie est devenue tellement grosse qu'elle en a rendu grotesque la série. C'est dire si cela en est triste. Gosho Aoyama, Détective Conan, le 58e tome est donc arrivé chez Kana et... J'aurais aimé que JB soit là pour parler de l'emphase des étoiles. Le 8e tome, donc la fin de la série, est arrivé. C'est toujours Christophe Arleston qui est au scénario et Didier Tarquin qui a repris la série principale, donc qui le dessine. Non, il a pas repris, je dis une immense connerie. C'est Mourier qui fait Troll de Troie et Tarquin, lui, il y est depuis... L'Enfeuse de Troie et donc L'Enfeuse des Étoiles. Le 8e tome s'appelle Le Sang des Comètes et est arrivé chez Soleil. Et comment dire? Ben voilà, c'est fini, c'est terminé. L'Enfeuse de Troie fut un immense succès éditorial, un succès critique aussi. Une série médiévale fantastique poilante, déconnante, hilarante. Puis il y eut la suite, L'Enfeuse des Étoiles. Où le pouvoir de L'Enfeuse va lui permettre de sortir des pires pièges de la galaxie. J'avais pas envie de raconter ce qui se passe dans le dernier tome, L'Enfeuse des Étoiles. Un peu logique, car je tiens à la vie. Il faut imaginer la horde de fans musclés comme des trolls qui vont tomber dessus si j'en dévoile trop. Et trop, c'est très très vite arrivé. Et pourtant, je suis là encore une fois déçu. Il y a d'abord le très largement plus dur que Tarquin a décidé de prendre. Il faut dire que les personnages ont grandi, certains ont vieilli plus que d'autres. Il y a aussi l'humour, qui n'est plus aussi présent qu'avant. Les jeux graphiques, les jeux de mots, les calembours, à la limite du vol plané, les gags sont beaucoup moins présents. Pour une histoire qui s'est faite plus tragique au fil des derniers tomes. Si vous avez découvert et suivi la série depuis le début, vous aussi vous avez vieilli avec. On retrouve à chaque nouvel album, avec bonne humeur, on sait qu'on va bien se poiler à suivre L'Enfeust, Ebus, Xixi. C'est juste que quand il a fini une de ses sagas, Arleston écrit des conclusions qui redescendent doucement, mais qui fait en sorte d'avoir toujours une fin ouverte. On sait jamais, on peut faire une suite après. Alors non, je ne raconterai rien des événements du dernier album. Je ne donnerai que mon impression. Cette conclusion est beaucoup moins hilarante que le début de cette suite, qui faisait suite à une suite où... Et merde, je m'embrouille encore. Finalement, je refermais le bouquin en les laissant à regret. Cette saga spatiale des trolls et des troyens aurait pu aller beaucoup plus loin. Mais on sent la peur de l'inconnu, non pas des héros, mais des auteurs. Christophe Arleston au scénario, Didier Tarquin au dessin. En face des étoiles, le huitième tome, ça s'appelle Le sang des comètes, c'est sorti chez Soleil, c'est arrivé la semaine dernière. C'est le gros événement éditorial et on sent que peut-être il y aura une troisième série à la suite des aventures de Lanfeust. Après tout, il y a pognon derrière. Allez, petite coupure musicale, il est midi et 28 minutes dans la poubelle des radios sur Radio FMR 89.1 MHz. Et vous écoutez le supplément week-end. Et la semaine dernière, on était avec d'autres furieux costumés. C'était absolument délirant. Et l'intro que vous avez entendu tout à l'heure, donc c'était la personne qui était habillée en Robocop qui disait son costume fait 22 kilos. Pharaon, c'était absolument génial. Et on se dit, heureusement que le prince Algorn n'est pas venu quand même avec son véhicule favori.
La calandre est super enfoncée et la peinture a bien morflé. Le moteur gauche s'est fait la malle, on dirait un cartapédale. Comment je vais dire ça à papa? Au centre, ils voudront plus de moi. Le rétro gauche est tout pété et les planitrons sont tombés. Oh putain, Goldorak est mort, impossible de leur démarrer. Oh là là, Goldorak est mort. C'est sûr, mon père, il va me tuer. Il faut que j'arrive à joindre le corps. Je crois que le Delco est pété. Allez, des couilles, je suis prince de fort. Je vais quand même pas me mettre à chialer. Je me revois bien sortir de la boîte. Après, sur la petite route, je déboîte. J'ai vu des boules et le lapin. J'ai lancé les fulgures au poing. Pourtant, c'était bien au Xénon. Avec Bioman, et maintenant je me prends un platane. Et voilà Goldorak qui est mort, impossible de leur démarrer. Et ben ouais, Goldorak qui est mort, c'est sûr mon père il va me tuer. Comment je m'ai mangé rebord et le rail de sécurité sentait que je préférais être mort. Au contrôle technique, là c'est râpé. Madame, pardon de vous déranger. Est-ce que je pourrais téléphoner? Ouais, je sais, je suis habillé marrant. Pour le Japon, je fais 0-1 devant. Allons, papa, j'ai un pépin. Je suis entre Ternier et Amiens. Ouais, je sais, j'ai pas pris mon portable. Ah, ok, il est sur la table. Écoute, papa, il faut que je te dise. Oui, je sais, j'ai pas pris ma carte grise. Bon, y'a des trucs plus importants. Putain, et voilà Goldorak qui mort, impossible de leur démarrer. Et ben oui, Goldorak qui mort, il te reste du câble à remorquer. C'est bon, me traite pas de tête de mort. J'ai c'est si cher pour réparer. Faut demander des pièces à Albator et fait raquer l'enculé.
Les prochaines sorties cinéma vous êtes présenté en Dolby Mono sur Ande par Thomas.
Voilà, alors aujourd'hui nous sommes nous avons entamé le mois de décembre, donc c'est peut-être le moment de sortir de
Miss Roussos pour le remettre avec une houppelande un petit peu de doré dessus et qui chante petit Papa Noël.
Pas aujourd'hui.
Ah pardon.
Donc c'est le moment de voir un peu ce qui va arriver dans l'année 2009. Alors, on va faire le petit bilan de 2008, puisque le bilan de 2008, forcément, en 2008 n'est pas fini. Donc il peut y avoir encore des films super bien qui arrivent en décembre, donc on va attendre. Donc les films, je vous ai fait une petite liste des films les plus attendus de 2009. Alors je peux vous dire qu'il y a du lourd, ça va tabasser sa race, mais grave, hein. Alors on commence par, si je vous dis petit nouveau David Fincher, ça c'est toujours bien, hein, après Zodiac. Alors Fincher, ce qu'il fait, c'est qu'il fait un film sans Brad Pitt, il fait un film avec Brad Pitt chef-d'œuvre, un film sans Brad Pitt, un film avec Brad Pitt chef-d'œuvre, même si Zodiac était loin d'être mauvais, hein, de toute façon il était vachement bien. Donc là c'est L'étrange histoire de Benjamin Button. Alors je sais pas si vous connaissez le pitch, donc c'est avec Brad Pitt, Kate Blanchett, Hayley Steinfeld, Tilda Swinton et Julia Ormond. Voilà. L'histoire d'un mec né avec le corps d'un vieillard, son métabolisme va rajeunir au fur et à mesure que le mec vieillit, et il va finir par tomber amoureux d'une femme de 30 ans. C'est les questions, alors je tombe amoureux de toi, t'as 30 ans, et moi je vais continuer à rajeunir, donc si on passe notre vie ensemble, ben, à la fin ben, je vais avoir le corps d'un petit garçon de 5 ans. Voilà. Donc là comme ça...
Ouais, mais elle aura de l'expérience quand il sera à l'adolescence.
Voilà. Donc il...
Continue.
Oh là là.
Il lit comme ça, le concept peut prêter à sourire, mais bon, entre les mains d'un Fincher avec Brad Pitt devant la caméra, ça peut donner quelque chose de pas mal, on sait jamais. Si je vous dis The Wrestler, ça vous évoque peut-être quelque chose. Lion d'or au dernier festival de Venise, et c'est réalisé par Darren Aronofsky, puis Requiem for a Dream, The Fountain, on chronique tout ce qui sort ici, avec Mickey Rourke, le grand retour de Mickey Rourke dans un film à récompense.
Ouais.
Donc ça raconte l'histoire du lutteur Randy Robinson qui est atteint d'une crise cardiaque lors d'un match sans grande importance, et son médecin lui annonce que s'il combat à nouveau, il meurt. À contre-cœur, Robinson décide de construire une nouvelle vie, emménager avec une stripteaseuse, tenter d'améliorer son statut de père. Cependant, la possibilité d'un nouveau match avec son ennemi de longue date, l'Ayatollah, pointe son nez. Une aubaine bien trop tentante pour l'ancien lutteur. Alors, film sur la lutte, sur le catch, The Wrestler, avec Mickey Rourke de Darren Aronofsky. Alors moi, je signe direct, et ça va sortir le 18 février. Le film précédent, L'étrange histoire de Benjamin Button, sortira 2 semaines avant. On continue, 18 mars, Watchmen, de Zack Snyder, avec notamment Billy Crudup et Carla Gugino. Alors on a le trailer qui déménage, il y a un nouveau trailer d'ailleurs que moi j'ai vu ce matin. C'est le prolongement des photos, hein. Avec du ralenti de partout.
Mais c'est ça qui est inquiétant.
On verra bien.
C'est une bande dessinée qui à l'origine est essentiellement verbeuse.
Oui, tout à fait.
Voilà.
Est-ce
que V pour Vendetta ou est-ce que Bonne Surprise?
Ah d'accord, est-ce que V pour Vendetta ou Bonne Surprise? Bah V pour Vendetta, j'avais pas trouvé si nul, j'avais bien aimé. Donc on va rappeler le pitch, hein, dans une terre alternative, la guerre froide est sur le point de provoquer une catastrophe nucléaire. L'un des Watchmen, Rorschach, enquête sur le meurtre d'un ancien membre de la troupe des justiciers, le comédien. Donc ça va être l'occasion de remuer un petit peu le passé de tous ces pseudo-héros qui n'ont des héros que dedans certains.
Alors donc, t'as réussi à retrouver un tome achetable de Watchmen ou toujours pas?
Ah bah non, moi j'ai ma propre édition donc je m'en fous, hein. Et qui n'est plus trouvable d'ailleurs. On enchaîne avec le 25 mars, John Woo is back.
Ah quand même.
He's back en Chine avec les Trois Royaumes. Les Trois Royaumes en VO ça s'appelle Red Cliff, avec Tony Leung et Takeshi Kaneshiro, et c'est le retour de John Woo au film en costume. Donc il est la Second Fight et c'est basé sur des événements historiques survenus en Chine il y a 1700 ans durant la période des Trois Royaumes. Le film se penchera sur la bataille que livrèrent les royaumes de Wu et de Shu contre le puissant ennemi Wei. Et inférieur en nombre, ils parvinrent toutefois à arrêter l'invasion Wei venue du nord en brûlant ses bateaux, ce qui donna à cet affrontement le nom de bataille des falaises rouges, Red Cliff. Donc John Woo qui revient au costume, on l'attend de voir. Est-ce qu'il va se nourrir de son expérience des gunfight et de son expérience américaine pour faire, on va dire, un film postmoderne sur le costume, ou est-ce qu'il va faire un film de costume à l'ancienne, on ne sait pas.
Et puis surtout maintenant qu'ils peuvent tourner en Chine comme ils veulent et avec un pouvoir qui justement veut promotionner la culture locale, indigène. Et je veux dire, là, il risque d'avoir des moyens. Si c'est des moyens aussi importants que Hero et tout ça,
Oui, alors ça sera de toute façon radicalement différent de ce qu'a fait Zhang Yimou de toute façon. Hein. Voilà, on enchaîne avec notre film asiatique. Si je vous dis Ponyo sur la falaise, donc j'ai mis au courant Xavier tout à l'heure qu'il n'avait jamais entendu parler de ce film. Et alors, si vous avez déjà entendu parler de ce film, vous savez que la chanson c'est Ponyo, 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 Ponyo. Vous regardez le trailer sur le net, vous l'avez dans la tête pendant une semaine la chanson. Donc, je sais, je suis un criminel, mais allez-y, vous allez voir. Donc, c'est le nouveau film
on
de.
On le mettra en bookmark tout à l'heure.
Ponyo sur la falaise, c'est bien évidemment le nouveau film de Hayao Miyazaki. Qui est prévu de sortir le 4 septembre prochain et ça raconte Ponyo, un art l'histoire de Sosuke, un garçon de 5 ans et d'une princesse poisson rouge nommée Ponyo qui rêve de devenir humaine. Ça fait un peu petite sirène conte comme ça. On espère que Miyazaki essaiera de se renouveler un petit peu. Il faut dire aussi qu'il est vieillissant, ce qu'on avait un peu reproché au château ambulant, il recyclait un petit peu les recettes qui avaient bien marché dans ses précédents films. Ensuite, on enchaîne avec un autre film d'animation qui est prévu pour le 1er avril. 01-04. Oui, 1er avril, oui. Tout à l'heure, j'avais dit 04-09. Non, en fait, c'est prévu en avril 2009. J'avais dit 4 septembre. Donc, toujours en avril, donc c'est Monsters vs. Alien. Donc, c'est le film d'animation de DreamWorks de cette année. Avec les.
JB vient d'arriver. Rien qu'à la moue qu'il fait, il résume bien l'ambiance qu'il y a sur cette table.
Qu'est-ce qu'il raconte ? Oui, donc c'est plusieurs films qui retardent la Terre. Toi qui retardes la Terre, c'est les films les plus attendus de 2009.
J'ai lu le.
Ah, d'accord. Donc Monsters vs. Alien, c'est le nouveau film DreamWorks avec les voix de Reese Witherspoon, Hugh Laurie.
Oui.
Et Kiefer Sutherland.
Oui. Oh.
Alors, quand la Californienne Suzanne Murphy est touchée par la radioactivité d'une météorite récemment écrasée sur Terre, elle se met à grandir dans des proportions démesurées. Faite prisonnière par l'armée, elle est conduite dans une prison spéciale où elle découvre d'autres monstres, enfermés ici depuis des lustres sous l'autorité militaire. Mais quand des extraterrestres belliqueux arrivent sur notre planète, le président des États-Unis n'a d'autre choix que de libérer cette bande de bras cassés pour lutter contre l'envahisseur et sauver le monde d'une destruction certaine.
Ouais.
Alors ce film d'animation est une adaptation du comic book Rex Havoc, que je ne connais pas, qui parodie les films de monstres des années 50. Ça promet, ça promet d'être assez pas mal, assez rigolo. On enchaîne ensuite avec toujours en avril, assez chargé, OSS 117, Rio ne répond plus.
Moi j'ai bien aimé, hein, honnêtement. Et même JB il opine la tête. Donc on attend de voir si l'essai sera transformé.
Toujours le duo Michel Hazanavicius et Jean Dujardin aux manettes. Donc en 1967, à la recherche d'un ancien dignitaire nazi réfugié en Amérique du Sud après la guerre.
Encore un nazi.
Tu connais un mauvais film de Hazanavicius?
Peut-être La classe américaine.
Il a fait quoi avant?
Il est même pas sorti en salle.
C'est terrible La classe américaine.
Je sais.
C'est monstrueux. Pardon.
Mais on passe au mois suivant, le 5 mai 2009, un petit film d'auteur là, ça a passé inaperçu, ça, Star Trek je crois ça s'appelle, de J.J. Abrams.
Yeah.
Avec Eric Bana, Zachary Quinto.
La bande annonce, on a déjà diffusé, on vous a déjà fait profiter de deux parodies qu'on a vues. On a une, c'est on l'a fait manière Beverly Hills, où en plus on voit des seins dans Star Trek, c'est impensable. Et l'autre, c'était laquelle déjà, l'autre sauce?
Dans le non
c'était Smallville. Smallville.
Smallville. Il y a aussi Leonard Nimoy qui fait un vieux Vulcain dedans. Il y a Winona Ryder, Carl Urban, Simon Pegg, Rachel Nichols. Ouais. Ah, déjà il y a des sourires sur le plateau, hein, c'est bien. Alors c'est un groupe de Romuliens qui se retrouve suite à un accident spatio-temporel dans la mesure de changer le cours de l'histoire. Les méchants Romuliens ont l'idée d'assassiner les pères de leurs futurs ennemis, à savoir l'équipage de l'Enterprise. Les géniteurs du capitaine Kirk et consorts, ainsi éliminés avant qu'ils n'aient eu le temps de procréer, les Romuliens se construisent un futur. Enfin, un présent donc, cool. A priori plus accueillant.
Cool.
C'est trop cool. Page 2. Sam Raimi retourne au film d'horreur le 29 mai 2009. Sort jusqu'en enfer, donc le fameux projet Drag Me to Hell. Et ça raconte l'histoire d'une femme qui a tout pour être heureuse et qui est victime d'un mauvais sort, une créature mythologique qui la suit partout. Le membre de l'équipe décrit le film comme un film d'horreur qui s'inscrit dans une fable morale. Donc on sait
donc
pas.
Donc c'est pas Pan qui lui galope après quoi.
Pan, oui.
Le labyrinthe de Pan.
Ah. Non, mais surtout. Non, c'est satyre, je pensais. J'ai dit une
oui, mais de toute façon, Pan est un satyre.
Voilà. Oui, aussi.
Tu n'avais pas tort. Le film de Sam Raimi, on va voir ce qu'il peut faire après sa trilogie sur Spider-Man. Si je vous dis Terminator 4, avec Christian Bale, Michael Ironside, Bryce Dallas Howard et Helena Bonham Carter.
Ah. Je sais pas, mais le 3, j'ai.
Ben oui, pareil. Sauf que c'est la suite plusieurs années après le 3, c'est réalisé par McGee.
Ah, ça va être fluo, hein.
Ouais.
Ça va faire bizarre entre l'univers du premier et le fluo qu'il a fait pour
Charlie et ses drôles de dames, oui.
Charlie et Terminator.
Voilà, c'est le premier volet d'une nouvelle trilogie et c'est dans le fameux monde post-apocalyptique en 2018 décrit dans les flash forward dans les deux films de James Cameron. John Connor organise la résistance contre les machines, donc on verra bien. Christian Bale tout au déroulé du Dark Knight en John Connor, je pense que ça peut le faire. On enchaîne ensuite avec un réalisateur. Quoi?
Non, moi je pense pas.
On sait pas, on va voir.
Moi j'y crois pas trop. Maggie, Bale, non. Et en plus, Bonham Carter, bon. Je vois qu'on saute sur les personnes différentes. Autant Star Trek, je suis pas fan, mais quand tu me dis le casting, j'ai fait ouais, Simon Pegg ou compagnie, ok. Là, Bonham Carter.
Le casting n'est pas assez geek pour toi, c'est ça?
Non, il me plaît pas, tout simplement. Non, il est peut-être trop geek.
Ok. Allez, le petit retour de Michael Mann en juin prochain, Public Enemies, avec Johnny Depp, toujours Christian Bale, Marion Cotillard, Stephen Dorff, David Wenham. Ça va?
Pardon?
Oui.
Ah, punaise.
Et c'est tiré d'un livre de Brian Beroff. Le film retrace la tentative de gouvernement et de l'agent du FBI Melvin Purvis, donc interprété par Christian Bale, d'arrêter John Dillinger, Johnny Depp, et son gang au lendemain de la Prohibition. Donc c'est un film...
C'est un historique en costume, quoi, années 30.
Donc ce n'est plus un film contemporain qui avait caractérisé les derniers opus de Michael Mann. On va voir ce qu'il peut faire avec la période de la Prohibition. En tout cas, Michael Mann, l'homme qui n'a jamais fait de booze, je pense que ça
peut être le film de l'année.
Ça y est, okay. Ça y est, c'est lâché. Maintenant, on sait.
C'est bon, on vote pour. On a tous levé la main.
Oui,
okay,
oui.
C'est bon.
Ensuite, moi j'ai une certaine sympathie pour Harold Ramis qui nous a fait Le Jour sans fin, qui a fait Mafia Blues, Mes doubles, ma femme et moi. Donc, qui revient avec le film Year One, orchestré autour de Jack Black. Et il y a aussi Vinnie Jones dedans. Donc du sport, on me dit
cool.
Donc, c'est l'ancien footballeur qui interprétait le fléau dans X-Men 3. Et donc il s'agirait d'une comédie biblique, une révision loufoque de l'Ancien Testament.
Maintenant qu'il n'y a plus bouche, on peut se permettre.
Ensuite, on va continuer avec du lourd, hein, puisque en décembre 2009, c'est très loin tout ça, c'est le nouveau James Cameron qui sera reporté de toute façon, oui, tout à fait, qui s'appelle Avatar, qui n'a rien à voir avec la série Avatar d'animation dont l'adaptation est en chantier menée par Shyamalan. Alors cet Avatar de James Cameron, il s'agit d'un groupe d'humains combattant les indigènes d'une planète éloignée, et le casting comprend Sigourney Weaver, Michelle Rodriguez et Wes Studi, plus 6 comédiens générés par ordinateur. Donc, c'est pour ça que le film est si long à faire. Donc,
il a créé des personnages non-joueurs.
C'est ça, contrôlés par la machine. On continue ensuite avec des films dont les dates en 2009 ne sont pas programmées, les dates de sortie, et on enchaîne avec Quentin Tarantino qui nous livrera son Inglourious Basterds, sorti, on l'espère, prévu pour le Festival de Cannes, et avec un casting qui comprend Brad Pitt, Eli Roth, donc c'est son pote, hein, donc il le fait tourner, Mike Myers et Diane Kruger.
Hein ?
Oui, c'est un film hommage aux 12 salopards.
Qui se passe en Europe, et il y a un casting européen qui est phénoménal. Après, en revanche, si je me trompe pas, le film n'est pas encore tourné. Or Cannes, je veux bien que ça soit
en mai.
Il est
en cours. Il est en cours.
Oui, et puis d'un autre côté,
post-prod, etc., il sera pas prêt pour Cannes.
Non, c'est pas la première fois que ça arrive qu'un film arrive à Cannes mal monté.
Walking Wild, hein.
Il y a pas eu que lui. Et d'ailleurs, justement, il y a eu un Quentin Tarantino qui a été monté un petit peu à la va-vite pour Cannes, et accessoirement Tarantino, il est capable de tourner très vite des fois.
Oui, bon, on verra. De toute façon, c'est tout ce que j'espère, c'est qu'il sorte pour Cannes, bien au contraire, parce que plus vite il arrivera sur les écrans par la suite.
Exactement. Ensuite, on enchaîne avec un film français qui est d'un gars qu'on aime bien tous, je pense, ici. C'est Albert Dupontel qui revient avec Le Vilain. Donc, c'est un. Comme à son habitude, il interprétera le rôle principal, un homme qui fait le mal depuis qu'il est né. Devenu braqueur, il vient se réfugier blessé chez sa gentille maman, interprétée par Catherine Froh. Bien évidemment. Voilà. Bien évidemment, il ne la supporte absolument pas, il n'a alors qu'une seule envie, la tuer. Donc, c'est du Pontel tout craché. D'autant que l'acteur, auteur, réalisateur ne semble rien avoir perdu de son caractère, il dit « Ce film est une comédie selon mes critères, loin de celle qu'offre en ce moment le cinéma français. »
Allez !
Blanc.
Bon, ça. Ensuite, on enchaîne avec un autre film dont la date de sortie en 2009 n'est pas programmée. C'est le nouveau film de Terry Gilliam qui s'appelle « L'Imaginarium du docteur Panassus ». Et c'est avec Heath Ledger. Alors, il est mort sans avoir pu finir ses scènes.
Non, mais il n'a pas de bol. Hein.
On peut dire ça, oui.
Il n'a jamais eu de bol avec ses films.
Qu'a choisi Terry Gilliam, c'est que comme son personnage principal, c'est une aventure fantastique, il voyage de miroir en miroir. En fait, il n'a pas remplacé Heath Ledger par un comédien, pas par deux comédiens, et par trois comédiens. À chaque fois qu'il va aller dans un monde différent, il sera interprété par un acteur différent.
On sent les mecs, tu vois, qui sont passés par la BBC et qui regardaient de temps en temps Doctor Who.
Et Heath Ledger sera donc remplacé par Johnny Depp, Jude Law et Colin Farrell.
Rien que ça.
Voilà, il aurait pu trouver pire. Ce film comprend également Christopher Plummer et Tom Waits. Christopher Plummer incarne le fameux docteur Panassus qui cacherait un lourd secret, mettant en jeu un pacte avec le diable interprété par le chanteur Tom Waits.
T'as pas le morceau?
Nouveau film de Gaspard Noé. Alors, je sais pas si ça va faire bander quelqu'un ici. Oui. Moi, oui, en tout cas. Qui s'appelle Soudain le vide.
Sexuel, hein.
Oh. Et donc c'est un film encore un peu bizarre. Hein. C'est l'histoire d'un esprit d'un mec qui erre dans une ville. Et, ses visions deviennent de plus en plus chaotiques et cauchemardesques. On va voir ce qu'il fait. S'il y a encore des scènes de viol ou s'il y a des nanas à poil. Bon, on va voir. Est-ce qu'il y a aussi un effet thromboscopique avec caméra qui tourne, qui tout tourne au travers avec des filtres rouges. On ne sait pas encore. Le nouveau film de Park Chan-wook, Thirst. C'est un film de vampire. Donc Park Chan-wook qui avait fait la trilogie sur la vengeance avec Lady Vengeance, Sympathy for Mr. Vengeance et Old Boy, et qui avait réalisé plus récemment Nos soucis, je suis un cyborg. Donc voilà, on va finir par deux projets, je pense. Alors lesquels est le plus excitant? On va enchaîner avec Mamoru Oshii dont le film s'appelle The Sky Crawlers. Donc JB avec une grimace affreuse nous dire « Ah non, pas pour moi !»
Ah non, c'est bon, vous le regardez d'abord, vous m'en parlez de manière objective, les gars, objective, hein, là tu tiens au défi.
Difficile d'être objectif, le mec ne fait que des chefs-d'œuvre.
Ouais, parce que je me suis fait chier sur le dernier.
C'était quoi?
Le Ghost in the Shell 2.
C'est un chef-d'œuvre.
Je me suis fait royalement chier.
Quand même, je pensais que tu serais beaucoup plus chier, tu vois, sur Avalon.
Je trouve ça beau.
D'accord. Donc The Skycrawlers, l'action de ce film se déroule dans un espace hors du temps, ou plutôt comme si le temps était suspendu, une base militaire dépeinte comme un purgatoire entre ciel et terre, synonyme de paradis et enfer. Là-bas, errent des anges déchus, enrôlés pour se battre aux commandes d'avions de chasse. En réalité, ce sont des adolescents génétiquement conçus pour ne pas vieillir. On fait confiance à Oshii pour nous prendre encore des séquences contemplatives avec juste un ciel qui bouge,
un chien qui passe.
Voilà, son fameux basset. Qu'est-ce qu'on en peut plus de se basser à la doigt, là, qui revient à chaque fois. Et l'un des projets, je pense, les plus excitants et plus, on va dire, régressifs qui soit, et qui va faire appel au mal barbare qui sommeille en chacun de nous, le nouveau projet de Sylvester Stallone avant son Rambo 5, qui s'appelle The Expendables, et qui réunit au casting, devant la caméra de Sylvester Stallone, Sly lui-même, secondé par Jason Statham, Jet Li et Dolph Lundgren.
Oh là.
Alors Jet Li, déjà je m'inquiète.
Ah oui, alors c'est le seul qui est là-dedans, sachant que le film...
Il faut savoir que pour ceux qui n'ont pas la couleur, que JB est parti dans un rire sardonique. et que du sport on est bouche bée en disant non.
si.
Et il y est question d'une équipe de mercenaires qui aura pour mission de renverser un dictateur en Amérique du Sud.
Mais bien
je
sûr.
Pense qu'il y aura de la mitrailleuse lourde dans le...
The A-Team.
Voilà. Sachant que le film a essuyé le refus de Jean-Claude Van Damme.
Dommage.
C'est ballot parce que dans le rôle de Looping, il aurait pu le faire.
Oui. Et je mentionnerai seulement, sans m'apesantir dessus, qu'il y aura également les films Valkyrie de Bryan Singer avec Tom Cruise, Transformers 2 de Michael Bay. Même, on peut dire ce qu'on veut du premier, on s'est pas emmerdé quoi. On espère qu'il y aura encore plus de baston et plus de Megan Fox encore.
Au carré. Voilà.
Il y a également l'adaptation live de 20th Century Boys par l'auteur de Monster.
Ah.
Enfin, du manga de l'auteur de Monster. Underworld 3, on sait pas ce que ça va donner. Bon. Harry Potter et le prince du sang mêlé. Le nouveau Pixar qui s'appelle Up.
Pixar.
Bon, tout ça, tu feras un joli billet. Avec plein de liens.
Voilà. Pour être honnête, sachez que l'essentiel de mes textes proviennent de l'excellent site que nous mentionnons tout le temps et qui nous aide bien dans nos chroniques, qui s'appelle DVDrama, et qui a compilé à l'occasion de top 10 les films les plus attendus, sachant que la majorité... Enfin, il y a beaucoup de films dans cette liste que je vous ai donnée qui n'étaient pas cités dans le top 10. Donc voilà.
Ouais, montre. Ah non, tu l'as
oui,
évidemment.
Quoi
non, c'est que je suis bête. Tu n'as pas la liste parce que je suis sûr qu'il y aurait eu d'autres trucs plus intéressants que ce que tu as dit.
Il y a aussi des films d'auteur, donc le nouveau Sam Mendes. Il y a également le nouveau Joe Carnahan qui est prévu pour 2009.
Attends, le dernier Carnahan, c'est une tuerie ce truc. Mise à prix là, c'est du snatch-like.
Smoking Aces, ouais.
Smoking Aces, c'est terrible, c'est vraiment du snatch-nack, arnaque crime, du lockstock, comme tu veux. C'est pas du narc ou je sais plus ce qu'il avait fait comme polar bien noir.
Ouais, narc, ouais.
Non, mais il y avait narc et puis un autre polar noir, très noir qu'il avait fait juste avant.
C'est pas Dark Blue?
Non, je sais. Non, Dark Blue, c'est du Elroy, ça, c'est pas du tout lui. Et moi j'avais pris ça pour un petit polar, je m'attendais à un petit polar très noir, le Smoking Aces. Je sais que mon beau-père il aime bien les trucs comme ça. Je lui dis tiens, bon, on va se caler ça entre nous, fallait bien que. Ah, c'est du snatch. Moi j'ai jubilé tout le long, je me suis éclaté, mais j'avais les beaux-parents qui étaient tirés à la gueule. Là. C'est excellent, vraiment excellent.
D'accord, et puis tant qu'on est sur les films dont je n'ai pas parlé, il y a aussi l'Antéchrist, le nouveau film de Lars von Trier qui sortira cette année aussi.
Je te le laisse.
Oh, c'est lui qui dit ça. Attends,
Lars von Trier qui fait un film Antéchrist avec je pense qu'il y aura du sang dedans, ça peut être sympa.
Ouais. Il a des sérieux problèmes avec la religion, le gars, quand même. Hein.
Je pense aussi.
Interruption musicale avec Osaka Monora et Café Regios. Pour Dus. Il est midi 54 minutes sur la Poubelle à Radio. C'est le Super Week-end numéro 180 déjà. Thank you.
Café Radios, interprété par Osaka Monorail. Et si je me trompe, c'était une bande son de Isaac Ice.
Ouais, de Shaft, du Shaft, hein, carrément, Café Radio.
On y va. Scénaristes se suivent et se ressemblent. Les héros s'en sortent toujours et on aime toujours ça. C'est la loi des séries. La. Ça faisait longtemps.
Ouais, j'ai voulu aller plus vite que la musique en plus, quoi. Rien de nouveau cette semaine, sinon quelque chose qui a déjà commencé la semaine dernière, donc j'ai pas eu l'occasion de vous en parler. C'est une série de téléfilms relativement intéressante, hein, je veux dire, c'est vraiment pas mal du tout, et c'est diffusé par Paris Première tous les mardis, et ça s'appelle Jesse Stone. Jesse Stone, c'est né de l'imagination d'un écrivain de polar qui s'appelle Robert Bernard Parker, qui est plus connu d'ailleurs pour il fait beaucoup de séries sur un personnage généralement enquêteur ou policier, et sa plus connue parce qu'elle a déjà été mise à l'écran télé sous forme d'une série, la série Spencer for Hire, et son héros c'est bien entendu Spencer, et Spencer for Hire, rappelez-vous, interprété par Robert Urich, Robert Urich, avec son pote noir joué par le jeune Avery Brooks, qui après allait dériver vers les galaxies infinies dans la cosmogonie de Star Trek, bien entendu. Si, rappelle-toi. Capitaine Sisko. Bien sûr. Donc, Spencer, 34 romans, quoi, écrits quand même déjà, rien que pour Spencer, dont un Edgar Award en 77 pour le meilleur roman, Promised Land, le Terre Promise. Il a également une autre série sur un autre enquêteur, Jesse Stone justement, et là il a écrit que 6 bouquins, et il y a une troisième série avec un autre personnage titre, c'est avec Sonny Randall, mais c'est bien entendu avec Spencer, hein, que Robert B. Parker s'est fait le plus connaître. Et qui a eu l'idée lumineuse d'adapter donc Jesse Stone, d'adapter ça sous forme de différents téléfilms? Eh bien ce n'est autre que Tom Selleck, Lex Magnum. Lui, lui-même.
Non, c'est pas le bon.
Ah, c'est pas le bon. Ouais, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps, hein. Hein, franchement, quoi. Tom Selleck, donc, qui,
se plante des fois dans la prog musicale. Tom Selleck qui a une activité d'acteur beaucoup plus riche, hein, et qui a écrit des romans.
Qui a écrit aussi, hein, bon, on va pas s'attarder sur sa carrière.
Très peu connu en France.
Et qui écrit d'ailleurs, parce que il faut savoir que c'est Jesse Stone, hein, donc Jesse Stone actuellement, il y a quand même déjà 5 téléfilms, donc des téléfilms d'1h40 qui ont déjà été tournés. Il y en a d'autres, il veut arriver à un rythme de 2 téléfilms annuels, ça se tourne au Canada. Il est producteur exécutif sur la série et il est même scénariste, en plus d'être l'auteur principal, enfin l'acteur principal de cette série de téléfilms, donc tiré de l'œuvre de Robert B. Parker. Tom Selleck, on va faire un petit topo sur lui. Il est né en 45, le 29 janvier, je crois que c'est le même jour que Elvis, quoi, mais pas la même année, dans le Michigan, à Détroit. Et c'est pour ça que c'est un supporter des Detroit Tigers, bien sûr. La casquette qu'il a avec le D, c'est bien entendu la casquette de l'équipe de baseball de Détroit. Du côté de l'information People, il a eu 2 femmes, dont la seconde, Jillie Mack, avec laquelle il vit toujours. Sa première femme, Jacqueline Gray, il l'a épousée en 71, divorcée en 82, un enfant, mais l'enfant était de sa femme, de son premier mariage à la femme, hein, qui s'appelle Kevin. Ils ont eu un enfant ensemble avec Jillie Mack, hein, qui s'appelle Anna, mais Kevin, il l'a adopté officiellement, quoi, donc il considère ses deux enfants comme ses enfants. Sa première apparition télé, il l'a fait dans une espèce de téléfilm qui s'appelle The Dating Game, où il joue le rôle d'un étudiant, ça se passe au collège, donc d'un lycéen, voilà. Il a fait des pubs pour Pepsi, et il a commencé vraiment à tourner un petit peu dans les années 70, avec, par exemple, il apparaît dans un épisode de The Young and the Restless. Quand même, hein, c'est normal.
Les feux de l'amour.
C'est presque la case obligée, hein, pour ensuite on le voit dans Marcus Welby en 74, 75 dans un épisode de Mannix en 75 dans les rues de San Francisco en 75, dans un épisode de Charlie's Angel en 76 et dans un rôle un peu plus récurrent dans The Rockford Files, rappelez-vous, James Garner. Et c'est le jackpot, enfin pas tout à fait le jackpot, parce qu'on sait qu'il avait, il a refusé un rôle qui aurait pu lui valoir gros, hein, à savoir le rôle d'Indiana Jones. Et pourquoi ? Parce qu'il avait signé un contrat pour une nouvelle série qui devait se passer à Hawaï. La série dont on a écouté le générique juste avant, Magnum P.I., Magnum Private Investigator.
Et dont, ouais. dans la saison 3 ou la saison 4, je sais plus, où il tombe dans le coma, il y a 3 épisodes où il se passe, où il a des aventures, etc. Il y a une femme aventurière. C'est en référence à la série de Pulp qui a inspiré justement Indiana Jones.
Alors ouais mais
c'est,
il faut savoir,
un gros clin d'œil.
Ouais, mais enfin bon, c'est, on va dire, c'est quand même un c'est pas vraiment un regret, parce que bon, il a eu beaucoup de succès avec Magnum, mais disons que ça aurait pu plus asseoir sa carrière en tant qu'acteur de cinéma. Et c'est là qu'il a un petit peu loupé le coche, parce que après, c'est vrai que les incursions qu'il fait dans le cinéma, bon, sont pas franchement convaincantes, on va dire, hein. Bon, même s'il est très bien dans Runaway, les évadés du futur de Michael Crichton, dont on parlait il y a pas si longtemps que ça, à l'occasion de la mort de Michael. Si. Non, voyons. Alors, il faut savoir que donc Magnum, ça dure quand même 8 saisons, hein. C'est assez énorme. Et il a également été producteur exécutif vers les dernières saisons de Magnum, où il est producteur sur 43 épisodes entre 85 et 87, et sur 13 épisodes entre 87 et 88. Il faut aussi savoir que la série Magnum, il y a eu des crossovers, hein. On a vu l'inspecteur. Alors, je vous ai pas demandé la dernière fois dans mon quiz le prénom de Magnum, parce que c'est vachement connu, mais c'est un prénom, il y a un prénom composé. Alors allez-y, faites voir des
Jean
propositions.
Pascal.
Non.
Thomas Jefferson.
Ah, presque. Le premier est bon, le deuxième n'est pas bon.
Thomas James.
Non.
Non, Thomas, mais je crois que c'est en rapport avec un ancien président.
Peut-être. Thomas. Sullivan. Thomas Sullivan Magnum. Alors, il a fait un crossover en 82 dans l'autre série qui s'appelait Simon et Simon. Rappelez-vous. Oui. Également dans Arabesque, hein, Murder, She Wrote, Simon et Simon en 82, Murder, She Wrote en 86. Magnum, donc.
Il y avait même dans le pilote de l'agence Tourisque, où il joue son propre rôle.
Oui, il y a également des apparitions, il joue son propre rôle. On l'a vu également dans un rôle récurrent dans Friends, hein, où il drague Courtney Cox pendant au moins 10 épisodes, on va dire. Et également, bah, son retour officiel, on va dire, un petit peu, où il a vraiment un personnage récurrent durant toute une saison. C'est le remplacement, justement, tu viens de le dire, de James Caan dans la série Las Vegas, où il est le patron du Montecito, et où justement, ben, il garde toujours cette vieille habitude qu'il a, hein, c'est de fumer, même alors qu'on sait que c'est devenu très straight, hein, au niveau de ce qu'on peut montrer, de ce qu'on peut pas montrer, et fumer les cigarettes, c'est devenu un petit peu has-been, donc on essaye d'éviter dans les séries, on va dire, normal, tout public, mais lui, bon, ça l'emmerde pas, ça a toujours été un gros fumeur, et donc on le voit encore dans les dernières productions, lui, hop, il continue à fumer en scène, donc bon, ok, quoi, c'est un gros fumeur. Faut dire également que, politiquement parlant, quoi, c'est plutôt un mec ancré à droite, ce qu'on appelle les Républicains, hein, parce qu'il a été déjà supporter actif de Ronald Reagan dans les années 80. Il est membre actif de la NRA, c'est-à-dire National Rifle Association.
D'un autre côté, avec Belisario,
pas mal de clips. Il a
avec Belisario comme associé,
le clip publicitaire pour la NRA, et il a soutenu McCain, bien entendu, aux dernières élections. Ça va de soi. Quand même.
Eh oui,
voilà, Thomas,
Tom
Selleck.
Même les Républicains sont sympathiques.
Ouais, mais enfin bon, ça va. Enfin, en tout cas, tout ça pour en venir à Jesse Stone, hein, dont le premier téléfilm a été diffusé par Paris Première, c'est mardi dernier, 20h50. Malheureusement, on regrettera pas de version multilingue, donc la version française, mais qui est potable, on va dire, hein, qui est tout à fait valable. Et surtout, bah, des téléfilms qui ont l'air vraiment très très bien foutus, hein, des histoires relativement simples, une enquête à résoudre, hein, c'est quand même réalisé par un vétéran de la télé qui s'est un petit peu aventuré au cinéma, Robert Harmon, qui est un bon
bon faiseur, on va dire, hein, y a pas de problème, et surtout par l'interprétation excellente vraiment de Tom Selleck dans le rôle de Jesse Stone, mais également les seconds rôles hein, qui sont pas mal. Stephen McCarthy, on a Stephanie Marsh, la blonde qu'on avait vue dans Law and Order à une certaine époque en tant que substitut du procureur, Viola Davis, et dans cet épisode qui s'appelle L'absence de preuves, diffusé mardi prochain sur Paris Première à 20h50, Mimi Rogers et Jane Adams. Jesse Stone en L'absence de preuves, donc c'est mardi prochain sur Paris Première à 20h50. Sinon, ce soir, bien sûr,
break du...
Allez,
c'est les Miss.
C'est
toujours présenté par Foucault ou...
Ouais. Alors tu peux préparer ton truc de top 5, là, tu vas voir. On va le faire, quand même.
Il a préparé tout à l'heure...
Il a préparé quoi? Le top 5?
Oui.
Ah, tu l'as glissé à l'oreille, alors c'est bien, quoi. C'est ce soir sur TF1, donc c'est pas la peine, de toute façon... Je sais pas si c'est TF1 qui a décidé de faire ça, mais après, généralement, le samedi soir, il y a toujours un épisode inédit de New York Unité Spéciale.
C'est pour niquer le Téléthon!
Pas ce soir, parce que ça s'arrête, l'élection de Mille France s'arrêtera à 23h45, officiellement, parce que c'est en direct, du Puy du Fou, donc, avec le, toujours, bien sûr, incroyablement bien coaché par Jean-Pierre Foucault. Comme d'habitude, Lynn Renault est présidente du jury.
Ouais.
Et dans le jury, qui c'est qu'on a dans le jury?
Alors,
Benoît Poulvord.
Et Lynn Renault qui a été présidente du Téléthon avant.
Ah oui, fout mal.
Non, mais c'est normal.
Et Poulvord, il est sorti de sa cure de déprime, là.
Je pense que ça fait peut-être partie de la thérapie.
Allez, on va te montrer
des filles,
tu vas pouvoir galoper après.
Ça fait peut-être partie de la thérapie. Il y a également Patrice Lecomte, Angoun, Kenzo, Henri-Jean Servat, Rachel Le Grain Trapani, qui n'est autre que Miss France 2007, et Christophe Maé. Trop cool.
Trop bien.
Alors 36 Miss donc qui vont concourir en 9 tableaux. C'est pour ça que ça dure vachement longtemps.
Elle est fraîche, ma jambe. Elle est fraîche, elle est épilée.
Donc c'est comme d'habitude hein, au début t'as toutes les 36 et puis au fur et à mesure il y a des éliminations, les malheureuses qui pleurent, celles qui restent pleurent aussi, hein, celles qui gagnera pleurera aussi, bien sûr. C'est normal.
Elle
c'est
va perdre sa couronne aussi.
Et c'est à 50% élection jury, 50% le public. Donc et en plus TF1 va se gagner un max de thunes avec les SMS et tout ça, quoi. Trop cool. Ouais. Faites le 70 machin, vous allez voir.
On verra. On verra parce que tu as Madame de Fontenay qui est un peu sur la sellette.
Ah mais elle est toujours là de toute façon.
Elle est toujours là.
C'est une des très bonnes clientes du PAF en ce qui concerne les émissions enregistrées
après,
ou directes, genre talk show et tout.
Elle a commencé à râler. Et on va voir si elle va pouvoir tenir l'émission dans le sens où elle a dit que si
elle va pas faire d'esclandre, elle est trop bien éduquée.
Elle est trop bien éduquée. Elle a donné ses conditions. Elle ne veut pas que Miss France actuelle jusqu'à ce
Valérie
soir.
Valérie Beg,
qui normalement est à la Réunion, donc sur l'île de la Réunion. Qu'il n'y ait pas de duplex avec elle, sinon elle a dit qu'elle quittait le plateau. Et il s'avère qu'il y a des gens du jury qui ont commencé à déjà dire leur sympathie par rapport à toutes les jeunes filles dans la presse. Et là, elle a commencé
comme
à pousser ses gueulantes aussi.
On verra.
Est-ce qu'elle tiendra elle jusqu'au bout de l'émission?
La question est posée.
Voilà. Alors, et là, on va faire un
suspense.
On va faire une
bonne raison pour regarder l'émission. Attends.
Ouais, on va faire un petit top 5 des blondes qu'il y a dans les 36 candidates.
Oh non,
parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Franchement, il n'y en a pas beaucoup. Il y a 6 blondes au total. Hein,
on
sur
connaît
36.
Pas leur nom et leur prénom.
Attends, je vais te les dire. Et on va dire en plus des blondes, il y a encore 4 claires et tout le reste c'est des foncés, vraiment foncés. Les cheveux, hein, je parle des cheveux, hein, bien entendu. Hein. Ok. Alors le top 5. Vas-y,
photo,
tu démarres.
Top 5. Numéro 5.
Alors c'est Miss Alsace. Qui s'appelle Carole Wendrich, elle a 22 ans.
Ah, tu l'as classé que 5 alors, Miss Alsace.
Numéro 4.
Non, mais il a mis Alsace.
Non, mais tu vois, comme ça, il n'y a pas de favoritisme. Miss Berry Val-de-Loire, Aline Moreau, 19 ans.
Numéro 3.
Miss Artois Hainaut, Anne-Sophie Sevrette, 20 ans.
Numéro 2. Elle a dû souffrir au collège. Hein.
Miss Corse. Maria Santa Lucianacci, 24 ans.
Ah oui, c'est un peu limite, limite d'âge.
Numéro 1. Et la gagnante est Miss Picardie, Cathy Joss, 22 ans.
Gagnante sous quel... Non mais Christine est au courant de ce que tu prépares des fois, tu gagnes dans cette émission.
Non, non, mais bon, il n'y a pas de problème.
Hein. Ouais, ouais, mais elle a, dit cette semaine qu'elle n'écoutait pas de toute façon.
Ah, bah, ah ouais. Oui, d'accord. Ouais, super, mais il y a quand même le différé. On va le réécouter sur supplémentweekend.fr, un classement qui a été totalement et objectivement créé par du sport, écrit uniquement sur photo, belle présentation, maillot de bain sur fond de Jamaïque.
Non, non, c'est du côté de la Malaisie.
Mais quand même.
Tu vois le meu pistolet d'or.
Alors sinon, si vous êtes bien chauffé pendant l'élection de Miss France, Paris Première a ce soir l'excellente idée pour ceux qui posent un bon disque dur et tout. Après, je transfère ça sur CD, puis c'est cool et tout. La première saison complète de Californication en version multilingue ce soir sur Paris Première à partir de 23h20. Les 12 épisodes.
Paris Première, c'est une chaîne cryptée. On peut pas déplacer les enregistrements des disques.
Non, c'est pas crypté, hein, ça dépend.
Non, non, mais c'est une chaîne, c'est une option payante. On peut pas.
Ah bon. Dommage. Donc, voilà, c'est pour ceux qui peuvent, hein, ou qui peuvent.
La deuxième saison cartonne.
Leur décodeur sans problème.
T'as qu'à l'acheter cet après-midi.
C'est,
voilà, c'est tout.
La totale quand même, quoi. Ça vaut le coup, hein, franchement. Bon, bah, c'est quand même, il faut le dire tout de suite, c'est pour adultes. Ça commence à 23h20 ce soir. Hein,
là, on va pas expliquer pourquoi.
Ah, 13h14 déjà.
Oui.
Eh ben, tu vois, on va quand même se faire une petite série de westerns, les westerns de la semaine.
Ouais.
Et on n'est pas déçus, là, cette semaine, tu vois, quand même, c'est pas mal du tout. Ça commence ce soir sur RTL9 avec, à 20h45, La Caravane de Feu de Burt Kennedy en 67 avec John Wayne et Kirk Douglas. Howard Keel également. Howard Keel, qui est Howard Keel? Dites-le moi. Mais si, c'est le mec qui a les cheveux blancs dans Dallas.
C'est lui.
Mais oui, c'est lui.
Celui avec le chapeau.
Voilà, celui avec le chapeau. T'as tout compris. Robert Walker, l'assassin. Enfin bon, pour l'instant, le procès est reporté encore une fois et tout. Keenan Wynn également, donc dans La Caravane de Feu ce soir sur RTL 9 à 20h45. Demain, toujours sur RTL. Ben oui, continue. C'était pas mal ça. Demain sur RTL 9 à 20h45, Desperado de Roberto Rodriguez,
yes,
Antonio Banderas,
ouais,
Salma Hayek de
Steve
Almeida,
Buscemi,
Steve Buscemi, ouais, tout ça donc sur RTL 9 demain soir à 20h45. Lundi, sur Orange Ciné Choc, un spécial Jodorowsky. Alors c'est con, c'est dans le désordre. Ça commence par
Le Topo, la montagne sacrée.
Non, justement pas. Ça commence par Santa Sangre, donc un de ces derniers à 20h40. Alors bon, en plus il est moins 16 celui-là, tu vois. Il le fout en première partie de soirée. Il date de 89. Ensuite à 22h40, Fando et Lys, 68. Et à 0h25, El Topo, le western de Jodorowsky. Enfin, les trois sont de Jodorowsky, donc c'est lundi sur Orange Ciné Choc. Mardi sur Ciné Cinéma Classique. Ah ouais, là c'est la soirée pas mal, franchement, là je te jure c'est la soirée pas mal, c'est la meilleure soirée quand même. Avec à 20h, parce que c'est deux styles, c'est le même genre western, deux styles complètement différents, deux contrées complètement différentes, hein, qui abordent le cinéma de manière un petit peu très différente, mais c'est vraiment très très bien. Tout d'abord à 20h45, L'Aigle des Frontières d'Alan Dwan en 39 avec Randolph Scott, Nancy Kelly, César Romero, et John Carradine. Celui-là il tue. Et à 21h55, un autre qui est pas mal, mais là c'est le western italien Saludos Hombre de Sergio Solima en 68 avec Thomas Milian, Donald O'Brien, José Torres et Linda Veras. Et mardi sur Orange Ciné Choc, il y a également à 20h40 Dead Man, pour celui qui l'a jamais vu, de Jim Jarmusch en 95. Ça vaut le coup de le revoir, il est bien quoi, Johnny Depp, toute la bande, hein,
cette
Mitchum,
musique de Neil Young,
très beau. Mercredi, tu voulais dire quelque chose?
Non, mais justement,
ah bon,
Deadman,
d'accord,
parfait.
Ok, bon,
mercredi. J'ai un truc à dire après.
Bon, d'accord, ok. Mais tu peux le dire maintenant, hein, si tu veux, il n'y a pas de problème.
En même temps, puisqu'on parle western, autant que je le cale, on a parlé très brièvement du Bon, la Boute et le Cinglé qui sort dans deux semaines de Kim Ji-woon.
Ouais.
Enfin, on l'a dit hors antenne, plus exactement.
Voilà, bon.
C'est lui qui avait fait Bittersweet Life.
qui était du gunfight. Là, c'est un nouveau film de western qui sort dans 2 semaines. On en parle un petit peu plus à ce moment-là. Il vient de sortir normalement en DVD, où ça sort ces jours-ci. J'ai pas trop vérifié. Le dernier Takeshi Miike. Django
Sukiyaki Western Django.
Ah, dans le désordre, c'était Western Sukiyaki Django.
Bon, je crois que c'est l'inverse, mais bon, on verra. On
fait le pari.
Allez, une bière.
Allez, t'as perdu.
on va déborder.
Ah bon, déjà.
Donc Western. Western.
Non mais JB, je pense pas me tromper parce que j'ai commandé à Noël.
Ah, bon, hey, vous calmez, ben voilà. Et vous allez sur la place du village, hein, avec un 6 coups chacun. Allez, hop,
d'autant plus que t'as internet, tu peux vérifier rapide.
Oui, non mais là.
Oui. Mercredi, toujours Western. Sur Sci-Fi, ouais, avec à 20h45 New York 1997. Celui qui dit pas que c'est un western,
ils ont rien compris,
mais bon, c'est pas grave. Carpenter 81 avec Kurt Russell, Donald de Plaisance, le regretté Isaac Hayes,
Lee Van Cleef,
ouais, toujours,
Adrien Barbeau.
Donc, c'est sur Sci-Fi mercredi prochain, 20h45. Donc, en version originale, si vous voulez, hein, sur Cinéma Premier mercredi prochain. Un western assez récent de 2006, hein, de Don Van Hansken, Seraphim Falls, avec Liam Neeson, Pierce Brosnan, Michael Wincott,
ouais,
et Ed Lauter. Ça peut donner ça. Donc
c'est quoi ça?
C'est Seraphim Falls, ça s'appelle. C'est juste à Kurt Russell. Orange.
JP se rend compte qu'il y a un accent à l'antenne.
Sur Orange Ciné Géant, un bon Andrew McLaglen, Chisholm avec John Wayne, Bruce Cabot, Forrest Tucker de 70. Bon, enfin bon, ça sent un petit peu la naphtaline quand même, à 20h40. Donc mercredi prochain, jeudi, un bon western que moi j'aime bien, quoi. Tombstone sur Canal Plus Cinéma, 20h45, George Pan Cosmatos avec Kurt Russell, Val Kilmer, il y en a encore d'autres, enfin vraiment pas mal, quoi, franchement, quoi. On dit que c'est un petit film, mais moi j'aime bien, quoi.
Ouais,
le genre de western.
Il avait un peu
bien,
souffert de sortir quasiment en même temps que le Wyatt Earp avec Kevin Costner.
Ouais, c'était le retour.
Il y avait 3 films autour de parce à peu près du même sujet. Il y avait Tombstone, Wyatt Earp et Morovis.
Mais c'était pas avec Wyatt Earp celui-là, parce que Tombstone c'est avec Wyatt Earp dedans aussi.
De toute façon, c'est
et qui raconte la même chose.
Ça raconte les 3 mêmes choses à peu près.
Ouais.
Bah, dans l'autre, c'est un exercice de style sur les duels au western.
Ah, Tombstone, c'est un peu plutôt règlement de compte, voilà, Coca-Cola dans ce style.
Règlement de compte, un peu plus orienté, pas série B, mais voilà. Et Wyatt Earp, c'est le film Oscar, super lent de 3 heures.
Vendredi. Vendredi, un intéressant western, mais surtout parce qu'il charcle pas mal, en fait, c'est Les Charognards de Dan Medford, c'est moins 16 quand même, hein. C'est sur Action vendredi prochain à 21h avec Oliver Reed, Gene Hackman et Candice Bergen. Ouais, et vendredi prochain également sur Ciné Géant, Orange Ciné Géant, donc à 21h, Le Pistolero de la Rivière Rouge, tu l'avais bien, de Richard Thorpe en 67 avec Glenn Ford, Angie Dickinson et Chad Everett. Et c'est tout.
Seraphim Falls, je sais quand déjà.
Lequel?
Seraphim Falls.
Mercredi prochain, cinéma premier.
C'est avec qui? Parce que
Liam Neeson, Pierce Brosnan, Michael Wincott, Ed Lauter.
Je prends. Nous sommes le samedi 6 décembre 2008. Nous programme pour cet après-midi.
Non, ça c'est
à 13h et bien plus
c'est
tard.
C'est l'intro.
C'est l'intro tout à l'heure.
Précédemment. Ok, donc Thomas, peux-tu nous faire le résumé pour ceux qui ont pris de l'émission en cours de route, hein.
Mais tout à fait, Thierry. Retour sur le TGS et ses recettes pour aller aux toilettes en armure de Robocop. On a eu les recettes de cuisine pour Photoshop et ses copains, du Wooden It, du Troll Lanfeust étoilé du futur, du gros film attendu pour 2009, du Top 5 2000 France, du Western en sifflant et du Kurt Russell.
Courte, non imprise, on manquait tout ça, heureusement, grâce à la diffusion différée, vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission et aussi retrouver les chroniques écrites, fouiller dans nos archives, jouer à des quiz stupides, laisser vos commentaires, poser vos questions, n'hésitez pas, il suffit d'aller sur le site web supplementweekend.fr. Vous écoutez FMR sur 89.1 MHz. Nous sommes en direct en alternance avec Booster FM et on continue sur www.radio-fmr.net.
Dans le prochain épisode, ce sera du Bézian en couleur. Oui, s'il vous plaît, ça existe. Le quiz, justement, les quiz de l'émission, on est en train de les tester. Bah, ça y est, ça marche. Et
ouais, mais on connaît nous-mêmes les réponses, alors c'est pas très rigolo.
Je peux le bloquer de manière à ce que seule la personne qui éditait le quiz le voit.
Je prends.
Voilà.
Très bien.
D'accord. Hein. Et en plus, il y aura des classements, des trucs comme ça, donc ça va être chaud. On va vous inviter.
Avec les high scores.
Il y aura high score et tout ça.
Non.
Voilà. Si. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même à ma fréquence. Merci de votre écoute, mais c'était donc le supplément week-end numéro 180 déjà. Et à la semaine prochaine pour plein d'autres choses, donc en bonne compagnie. Merci à vous. Je vous laisse avec du sport. Ciao, bye.
Ciao. See you.